Silcast présente Plongée profonde, thème du jour, géopolitique, avec Sacha et Alex. Bonne écoute.
Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ce chiffre. Un seul navire commercial a traversé Hormuz mardi. Un cargo sous pavillon comorien, l'Adriane. Lundi, 5 navires. C'est l'effondrement total du trafic, et ça arrive au lendemain du lancement de Project Freedom.
Et ce qui est savoureux, c'est la dissonance cognitive côté Pentagone. Exet qui répète que l'Iran ne contrôle pas le détroit, que sa structure de commandement est fragmentée, pendant que 60 navires se replient au large de Dubaï. Si c'est ça ne pas contrôler, j'aimerais voir ce que contrôler veut dire.
C'est précisément le point. Le grand continent le formule très bien. Téhéran démontre qu'avec des moyens relativement limités, des drones, des missiles, quelques attaques ciblées sur deux navires civils, lundi, il peut décider des flux. Le contrôle au sens militaire classique n'a pas besoin d'être total. La dissuasion par le risque suffit. Les armateurs eux-mêmes font le travail. Maersk hésite, les assureurs flambent, le commerce s'arrête.
Et là-dessus se greffe l'angle chinois, qui est pour moi le vrai delta de la semaine. Pékin a invoqué samedi sa loi de blocage pour la première fois. Concrètement, ils interdisent à leurs entreprises de respecter les sanctions américaines visant 5 raffineries qui achètent du pétrole iranien, dont Angli, 400 000 barils par jour. C'est massif.
C'est massif et c'est un basculement. Cette loi de blocage existait depuis 2021. Elle n'avait jamais été activée. Le moment choisi n'est pas anodin. Bessène accompagne Trump à Pékin la semaine prochaine et il accuse déjà la Chine de financer le plus grand État soutenant le terrorisme. On part en négociation avec un couteau sur la table.
Je veux qu'on creuse ce mécanisme parce qu'il est nouveau. Si je comprends bien, une entreprise chinoise sanctionnée par l'OFAC peut désormais se retourner contre quiconque appliquerait la sanction sur le sol chinois et obtenir réparation devant les tribunaux. C'est un conflit de conformité organisé par l'État.
Exactement. Et l'effet politique est double. D'abord, ça protège juridiquement les raffineurs TIPO qui absorberaient jusqu'à 90% des importations chinoises de brut iranien. Ensuite, et c'est là que je rejoins l'analyse du découplage financier, ça force les banques et les intermédiaires à choisir leur camp. Tu ne peux plus jouer les deux tableaux. Soit tu sers le système du dollar, soit tu sers Pékin.
Et ça arrive pile au moment où Hormuz est gelé. Donc Washington se retrouve avec une équation impossible. Pour rouvrir le détroit, il faut soit la guerre, soit faire pression sur l'Iran via la Chine. Mais la Chine vient précisément de dire qu'elle ne coopérera pas sur le pétrole iranien.
D'où le scénario inquiétant qu'évoque le Grand Continent en fin d'article. Des responsables américains et israéliens estiment que Trump pourrait reprendre la guerre dès cette semaine si l'impasse diplomatique persiste. Le cessez-le-feu du 8 avril tient sur le fil. Ken, le chef d'état-major, doit même affirmer publiquement qu'il est toujours en vigueur alors que des coups de semonce sont tirés sur la marine américaine. Ce langage-là, c'est celui qu'on utilise quand on prépare l'opinion à une rupture.
Et il y a un point que l'entretien de Bagdad, publié par le Grand Continent, éclaire bien. L'Iran ne mène plus seulement une guerre frontale, il a réactivé son axe de proxy. Les milices irakiennes, regroupées sous résistance islamique, ont repris une activité de communication intense depuis mars. Donc, même si Trump relance des frappes, la riposte ne viendra pas que de Téhéran.
C'est ce que j'appellerais la stratégie du système nerveux distribué. Le régime iranien a appris des 18 derniers mois. Le Hezbollah a été affaibli, oui, mais l'Irak redevient un avant-poste. Et l'article d'AOC sur l'État iranien complète le tableau de manière intéressante. Ceux qui parient sur un effondrement par la guerre ou par la rue se trompent d'objet. L'État iranien, ses appareils administratifs, militaires, ses réseaux de dépendance sociale tissés sur 45 ans, ont une épaisseur que la pression militaire ne dissout pas.
Ça contredit frontalement le pari de l'administration Trump et des monarchistes qui espéraient couper la tête du serpent. Mais alors, politiquement, ça veut dire quoi ? Que même si Khamenei tombe, la machine continue.
Ça veut dire que les recompositions se feront dans l'État, pas contre lui. La révolution de 1969 elle-même s'est jouée dans une lutte factionnelle pour le contrôle des administrations, pas dans la rue. Les militants anti-régime devraient méditer ça. Et stratégiquement, pour Washington, ça signifie qu'aucune frappe ne produira un changement de régime favorable. Au mieux, on fragmente, on chaotise, on crée un Irak bis.
Et pendant ce temps, l'Europe regarde. Il y a ce texte d'Iris, « L'Europe doit dire à Trump, ça suffit », qui pointe quelque chose de cruel, Merz fait une remarque timide en disant que les Américains ont été humiliés en Iran et Trump répond en passant les tarifs au taux de 15 à 25%. La sanction est immédiate.
Et c'est là que je voudrais relier au texte sur Zilup et la défense européenne. On a un ordre transatlantique en décomposition, une guerre régionale au Moyen-Orient qui peut redémarrer cette semaine, une Russie dont l'économie de guerre dévore sa propre démographie. L'article de Prokopenko est édifiant sur ce point. Le chômage à 2,2% corrèle à 0,7-0,8% avec les morts militaires régionaux. Et une Europe incapable de sur Russie autonome.
Sur la Russie, ce chiffre m'a sidéré. Pour 1000 personnes retirées des listes de chômeurs, environ 130 décès confirmés de soldats. Tiva, Buryati, Transbaïkalie en tête. Poutine se félicite d'un record post-soviétique du marché de l'emploi qui est en réalité un cimetière statistique.
Et Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale, le dit le lendemain sans détour, pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Le déclin démographique des cohortes 992-2002, plus l'arrêt du flux migratoire d'Asie centrale, qui compensait 73% du déclin naturel sur la période post-soviétique, plus la guerre qui ponctionne les jeunes hommes des régions périphériques. C'est une économie qui se mange elle-même pour 40 ans.
Ce qui me ramène à une question politique de fond. Si la Russie est durablement épuisée, si l'Iran tient par son état même sous pression, si la Chine accélère le découplage, on est dans un monde où aucun des grands acteurs ne peut gagner, mais aucun ne peut perdre non plus. C'est une stagnation belliqueuse.
C'est exactement ça. Et dans cette stagnation, la classe ouvrière mondiale paie. Les marins bloqués au large de Dubaï, les conscrits bourriates, les Palestiniens à Gaza, dont l'article d'Iris souligne qu'ils n'ont plus accès aux soins, les Libanais sous frappe israélienne. La géopolitique des grandes puissances se règle sur leur dos pendant que les bourgeoisies nationales consolident leurs rentes.
Du coup, qu'est-ce qu'on surveille pour les jours qui viennent?
Trois choses. D'abord, la visite Trump-Bessant à Pékin la semaine prochaine. Est-ce qu'on a une désescalade transactionnelle ou un durcissement? Ensuite, la décision de Trump sur la reprise des opérations militaires contre l'Iran qui semble se jouer cette semaine. Et enfin, le comportement des armateurs. Si Maersk et les Majors annoncent un retrait durable d'Hormuz, on bascule dans une crise énergétique mondiale, indépendamment des décisions politiques.
Moi, j'ajouterais l'invocation de la loi de blocage chinoise. Si d'autres entités sanctionnées, banques, raffineries, l'utilisent dans les jours qui viennent, on a la confirmation que ce n'est pas un coup tactique, mais un pivot doctrinal. Et là, le système du dollar prend un coup historique.
On en reparle demain.